Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un pays qui, les 70 dernières années, a connu révolution, dictature, première guerre, une deuxième guerre, embargo, guerre à nouveau, occupation, et qui aujourd'hui souffre encore. L'Irak, terre pourtant fertile et heureuse pendant longtemps, est un paradis perdu pour ceux qui l'ont connu avant ou pendant ces brèves périodes d'accalmie. Notre invité aujourd'hui a été témoin enfant de ces moments heureux, mais a vu aussi le peuple irakien otage de ces soubresauts de violence sur place ou en exil. Comme journaliste, grand reporter et ancien correspondant à Bagdad, il en a rendu compte dans ses films et dans ses livres, mais aujourd'hui c'est par une fiction qu'il revient sur cette grande histoire intime et collective. Un premier roman paru sous le titre « Je me souviens de Fallujah » aux éditions Jean-Claude Lattès. Bonjour Ferhat Alani.
Bonjour.
Ce pays dont vos parents sont originaires, même s'ils se sont rencontrés en France où vous êtes né, nous y reviendrons. L'Irak donc est au cœur de votre travail depuis toujours. Mais qu'est-ce que la littérature vous permet ici de dire de plus que vous n'aviez pas pu raconter avant?
C'est une question que je me suis posée en fait au tout début de l'écriture de ce roman et même avant. C'est vrai que l'Irak, quand je le découvre, moi j'ai 9 ans. Et ensuite, durant l'adolescence, durant l'embargo, j'y retourne à plusieurs reprises. Et donc, ma vie depuis mon enfance tourne autour de l'Irak, de mon origine, de l'histoire de mon père. Il se trouve que je deviens journaliste au moment de l'invasion américaine en Irak et que je satisfait presque ce besoin de raconter ce pays. Mais à un moment donné, pour aller vite, je me suis retrouvé face à des questions sans réponse au niveau de ma famille, au niveau de mon père, au niveau personnel, que le journalisme ne pouvait pas me permettre d'explorer. Des questions sur mes origines, sur l'histoire de mon père. Alors, ce roman est une fiction, mais je ne suis pas très loin de ma propre réalité. La fiction, la littérature, permet à mon avis humblement, de répondre à des questions auxquelles on n'a jamais eu de réponse. J'ai énormément de fantasmes sur l'Irak, sur l'histoire de mon père, sur son parcours, sur une période méconnue d'ailleurs. Je parle dans ce roman des années 50, 60, 70, avant l'exil de mon père. Le journalisme ne me permettait pas d'aller aussi loin.
Oui, et de mettre des mots sur des silences.
Et de mettre des mots sur le silence. Écrire le silence, c'est compliqué. C'est pas une démarche que j'ai réussi à avoir, en tout cas dans le journalisme, parce que je raconte des événements terribles depuis l'invasion américaine de l'Irak et la chute de ce pays, ce maelstrom que j'ai exploré, que j'ai parcouru de long en large. Cette fois, la fiction permet, oui, d'aller sur des thématiques comme l'identité, comme l'exil, comme la relation père-fils, comme des choses tout à fait intimes, personnel et que j'avais envie de poser sur le papier, notamment quand j'ai perdu mon père.
Donc, je me souviens de Fallujah est un récit articulé en 3 temps qui s'alternent. D'abord 2019, avec ce dialogue entre un père hospitalisé en train de devenir amnésique et son fils qui lui parle, qui lui raconte son passé pour essayer de raviver sa mémoire. Au-delà d'un au revoir, d'un deuil à venir, est-ce que c'est aussi le passage de relais d'une génération à l'autre pour ne pas oublier que vous voulez fixer ici et la nécessité de la transmission?
Oui, c'est un besoin, c'est une urgence et c'est même une obsession en fait pour moi, la mémoire, l'oubli. Je refuse l'amnésie à la fois sur mon pays d'origine, l'Irak, mais aussi sur l'histoire de mon père et de tous ceux qui, comme mon père, ont fui un pays, ont parcouru l'exil, se sont sacrifiés pour leurs enfants. Et ça, c'est une obsession, effectivement. Raconter, en fait, encore une fois, le silence, l'oubli, ça s'est fait dans l'urgence pour moi. Parce que dans ma vie personnelle, mon père a eu un cancer fulgurant qu'on a appris tout début juillet. Et mon père a disparu en octobre, donc c'est allé très vite. C'est pas du tout quelque chose à laquelle je m'attendais.
C'était en 2019.
C'était en 2019. Je discutais énormément de l'Irak avec mon père, mais encore une fois, dès qu'il y avait des questions plus précises sur son enfance, j'avais le droit au silence. Et à sa disparition, c'est tombé comme une évidence. Il fallait que j'écrive sur lui. Pour répondre plus précisément à votre question, il fallait que je lui rende hommage et que je cale cette mémoire sur le papier pour ne pas qu'on oublie mon père et qu'on oublie encore une fois ses semblables, qu'ils soient irakiens, chiliens, peu importe, de n'importe quelle dictature ou pays qu'ils ont fui. C'est un hommage à tout cela aussi.
Le fils est nommé Euphrate en hommage au fleuve irakien où son père plongeait enfant. Vous vous prénommez Ferhat. On voit bien la similarité. Et c'est vrai que cette fiction s'inspire beaucoup de votre biographie. Mais néanmoins, quand vous racontez l'enfance de Rami, le père, ses jeunes années en Irak, la perte de sa mère, il devient orphelin, l'indifférence paternelle, la maltraitance de sa belle-mère, la tyrannie de ses demi-frères, est-ce que vous vous inspirez de la réalité ou là aussi vous avez réinventé ?
Un peu des deux. Je me suis inspiré de la réalité parce que, en vérité, quand je posais des questions à mon père, j'étais assez insistant et donc je pouvais parfois obtenir des morceaux d'histoire. Mais c'était comme un puzzle que j'ai dû moi-même recomposer, en fait. Et donc, il y a des histoires qui sont réelles. La maltraitance a été réelle pour mon père, la perte de sa mère aussi. Et après, il y a évidemment beaucoup de choses que j'ai inventées, que j'ai fantasmées, que j'ai imaginées. Et c'est ce que m'a permis, justement, la fiction. Et j'avais aussi une forme d'archivage, moi, depuis mon enfance et mon adolescence, au sein de ma famille, du côté de mon père, où je posais également des questions. Les questions auxquelles lui ne répondait pas, je les posais parfois à mes oncles paternels. Et j'avais des éléments, à droite à gauche, qui restaient dans ma tête. Et lors de l'écriture de ce roman, tout m'est revenu. Et j'ai dû, et d'ailleurs j'ai peiné à me lancer dans ce que Jean Cocteau appelle le mensonge qui dit la vérité. C'est pas facile pour un journaliste d'inventer des choses. On se raccroche tellement aux détails, à l'histoire. Quitter l'habit de la vérité, c'est difficile. Et quand j'ai dû mettre des mois avant d'accepter d'écrire une ligne qui ne soit pas un fait rapporté. Et ça a été une libération à un moment donné pour moi.
Parce que vous entriez dans le territoire de la sensibilité et non plus de la vérité.
Effectivement, la sensibilité, les émotions qui ne doivent pas transparaître quand on est reporter, à mon sens. Quoique, ça peut arriver. Mais là, en l'occurrence, il fallait écrire comme ça. J'aime bien dire que j'ai écrit avec les tripes, avec le cœur et pas du tout avec la tête.
Donc Rami est né à Fallujah, cette ville à 40 km de Bagdad. Et voici comment vous la décrivez, Ferhat Alani, en 1953. Nous sommes presque au début de votre roman. Je me souviens de Fallujah, page 59.
Fallujah était une ville de l'entre-deux, une jolie petite bourgade pleine de contradictions et de paradoxes. Située dans une vallée fertile, bordée par l'Euphrate, elle était aussi entourée de sable pourpre l'été. Une cité tantôt paisible, tantôt bruyante, ni trop près, ni trop loin des trépidations de Bagdad, où flottait un parfum floral qui laissait souvent place aux effluves de crottins de mulets au détour d'une rue. En matière d'architecture, Fallujah était typique des villages de l'ouest irakien, avec ses dattiers millénaires, ses marchés couverts, ses maisons aux couleurs d'argile. En réalité, elle était la définition même de l'antagonisme. Les citadines sans voile toisaient les villageoises aux silhouettes noires. Ses jolies échoppes snobaient les ruelles pauvres. Et enfin, ses grands axes exposaient la fatuité des nouveaux riches, montrés du doigt par ceux qui, le soir, tournant le dos à la ville, portaient haut la fierté et la misère des infortunés sur le dos de leurs bourricots. Après la disparition de Mourdja, Rami devint mutique. Parfois, son frère Tarek le surprenait la nuit, sanglotant, dans un coin de la chambre qu'il partageait avec leur aîné Khaled. Comment survivre à sa maman lorsqu'on est enfant ? Comment exister parmi les autres quand les jours et les nuits rappellent sans cesse ce si grand malheur ?
Ferhat Alani pour cette lecture qui nous présente Fallujah en 1953 que vous allez découvrir en 1989 à l'âge de 8 ans lors d'un premier voyage sur les terres de vos parents mais sans le père qui est resté en France. Et le personnage du fils dans le roman n'a pas les yeux assez grands pour découvrir ce pays. Et vous, Farah Talani, vous avez eu le même éblouissement la première fois ?
Oui, ça a été un éblouissement, c'est vraiment le terme, parce que enfant de 8-9 ans, j'avais tous les clichés qu'on peut imaginer en tête sur un pays qu'on qualifiait de lointain, des mille et une nuits, etc. Donc j'imaginais réellement voir des chameaux et des dunes de désert partout. Et en fait, quand on atterrit à Bagdad, encore aujourd'hui, on atterrit dans un aéroport moderne, construit par les Français d'ailleurs. J'étais étonné de voir des autoroutes, du goudron, des luminaires, des voitures japonaises, américaines. Donc d'abord émerveillé par l'esthétique du pays, et puis émerveillé par cette immense famille que je découvrais. Parce que, étant en France, je n'avais aucun semblable, entre guillemets, autour de moi, ni cousin, ni cousine, ni tante, ni oncle, comme tous mes amis autour de moi. Pas de Normandie, pas d'Ardèche. Et là, je découvre à la fois cette immense famille. Je découvre qu'on a des maisons à droite, à gauche, à Bagdad, à Fallujah. Et donc, c'est un émerveillement, tout en restant lucide, même à cet âge-là, sur la nature du régime. Parce qu'à la maison, dans le personnage de Frat du roman, mais également dans ma propre vie, la dictature planait, le tabou planait, la paranoïa aussi, des noms à ne pas prononcer, etc. Et très vite, au moment où je découvre ce pays, la dictature nous saute à la figure lorsque ma sœur, contrairement à ce qu'on lui dit, hurle le nom de Saddam Hussein dans la rue, et là, la vie s'arrête. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas dans un pays normal.
D'ailleurs, le père l'avait dit avant le départ, c'est un pays où il faut murmurer et où il faut mentir d'une certaine façon.
Exactement, il faut surtout ne pas élever la voix.
Ouais.
Et quand je posais la question à mon père, d'ailleurs, ça c'est réel aussi de la nature de la dictature, de la définition même du mot dictature, il me disait c'est la société du murmure, c'est un pays où on doit murmurer et ne pas élever la voix.
En tout cas, à cet âge-là, Farah Talani, vous êtes aussi très sensible, on va dire, aux sucreries, puisque vous dites que l'Irak, c'est l'empire de la gourmandise. Et je crois d'ailleurs que les glaces à l'abricot ont été une révélation pour vous.
Oui, sur la route, à peine sortie de l'aéroport, on s'arrête à un glacier. Je n'avais pas une appétence particulière pour les glaces, mais il se trouve que la première chose que j'ai mise en bouche en arrivant en Irak est une glace à l'abricot que je n'oublierai jamais. Et donc j'ai résumé l'Irak à cette mémoire olfactive qui est la glace à l'abricot.
C'est votre Madeleine.
Oui.
On va continuer de parler de votre roman, Farah Talani, de l'Irak et du parcours de ce père qui a dû en partir au début des années 70. Mais on va faire une pause dans cette émission. Quelle musique aimeriez-vous écouter, peut-être du makam irakien, comme vous le citez au cours du roman ?
Vous me feriez très plaisir si on pouvait écouter Hossam al-Rassam, qui est un chanteur populaire irakien qui chante un peu la tragédie irakienne de post-2003.
Donc on va vous faire plaisir, Farah Talani, et on va
merci
écouter cet artiste.
الغيرة تعلي بنا الصوت أشوف
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de Ferhat Alani, journaliste, grand reporter, prix Albert Londres pour son livre Le Parfum d'Irak, devenu aussi une web-série documentaire d'animation, et qui vient de publier son premier roman sous le titre Je me souviens de Fallujah aux éditions Jean-Claude Lattès. On l'a dit, c'est une plongée dans l'Irak dans les années 50-70, telles qu'elles ont été vécues par Rami, le père de votre protagoniste, et parallèlement l'Irak des années 90 et suivantes, raconté par son fils, votre double littéraire, d'une certaine façon, Euphrate, qui essaye de deviner dans les silences de son père le secret de son exil. Est-ce que votre père aussi avait un secret ? Est-ce qu'il y avait en effet chez vous une valise que découvre enfant le petit Euphrate et qui contient des photos et des documents très mystérieux ?
Oui, et ça a été une source d'inspiration immense parce que à la fois le secret existe et ce secret, je n'ai pas la réponse.
Toujours pas ?
Toujours pas. Et je ne sais pas aujourd'hui, on va dire peut-être quasiment 30 ans après de brèves discussions que j'avais eues avec mon père quand j'étais enfant, si ce secret existe réellement. Mais mon père, dans ma vie, m'a toujours parlé d'un secret. Mais je ne comprenais pas pourquoi il m'en parlait sans pouvoir me le révéler. Et quelque part, avec le recul, je me suis toujours dit que mon père avait presque envisagé qu'un jour j'écrirais sur lui, sur le pays, et qu'il, quelque part, excitait ma curiosité, mon imaginaire. Parce qu'il me parlait d'un secret. Il me parlait aussi d'une date bleue.
Bleue
qu'on pouvait trouver tous les 10 ans en Irak, à condition qu'aucune date...
Oui, la date à manger, autour. Bien sûr, le fruit.
Oui, pardon, la date D-A-D-T-E, ouais. À manger. L'Irak est un pays de dattiers. C'était un des premiers exportateurs dans le monde. Et mon père évoquait ça. Et à chaque fois, je me posais les questions. Je lui demandais, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que cette histoire est vraie ? Il me disait régulièrement, si cette histoire te plaît, alors elle est vraie. Donc il y avait quelque part une porte ouverte vers l'imaginaire dès mon enfance. Et ça m'est resté en tête. Et donc, dans ce roman... J'ai exploité cette idée du secret, de l'exil, du secret de l'enfance, mais sans avoir réellement de réponse. Et c'est pour ça que la littérature, la fiction me permet d'aller explorer ces thématiques-là.
Alors, peut-être pour comprendre un peu mieux pourquoi il y a cette notion de secret, il faut sans doute rappeler que c'est sans doute parce que le parcours de cet homme et de votre père épouse aussi l'histoire de l'Irak. Puisque en grandissant, Rami devient militant, opposant au régime... Au point qu'il distribue des tracts, il est arrêté, incarcéré dans une des pires prisons d'Irak, torturé. Il en ressort de façon étonnante vivant. Mais là, il prend la décision de fuir son pays natal. C'est sans doute à l'articulation de ces moments-là qu'il y a eu un secret.
C'est tout à fait ça. Et effectivement, le père représente aussi l'Irak. Il représente l'Irak d'abord magnifique, et puis sa déchéance, sa fuite, sa déliquescence même. Le secret se trouve à cette période-là, c'est certain. Et effectivement, le père et mon père, dans sa vie, a été témoin malgré lui de l'histoire. Il est devenu militant politique malgré lui. Il se retrouve à l'âge de 14 ans, le 14 juillet 1958, pris par l'engouement d'une révolution qu'il ne soupçonnait pas. Il est pris dans une foule et il se met à scander avec eux des slogans qu'il ne comprend pas. Il m'expliquait qu'il chantait déjà la Marseillaise, qu'il chantait des slogans communistes. Enfin, il y avait tout un tas d'idées révolutionnaires et de courants contradictoires qui, durant peut-être la seule année en Irak, étaient possibles, avant que ça se referme et que les coups d'État reprennent le dessus et que le nationalisme arrive jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Saddam Hussein. Mais effectivement, le parcours du père est quelque part un reflet du parcours de l'Irak. Il passe effectivement par la prison à un moment donné, une prison qu'on appelle Qasr al-Nihaye en arabe, qui veut dire le palais de la fin, F-I-N. On n'est pas censé en sortir. Et lui, miraculeusement, en sort. Et on pense aussi que, puisqu'il était un militant de bas étage, comme il le disait lui-même, il a été épargné. Les ministres, les députés, à l'époque, qui étaient emprisonnés, n'en sortaient pas. Et quand il en sort... Il décide de fuir, comme beaucoup d'autres Irakiens, avec l'idée de revenir un jour. Et ça n'arrivera jamais.
Mais c'est quand même un homme brisé qui arrive en France, où il a néanmoins la chance de rencontrer la femme qu'il va épouser, une Irakienne qui est en touriste. Je dis brisé parce que il travaille à la sauvette, il vend des cartes postales pendant des années à des touristes. Et je me demandais qu'est-ce qui était le pire, finalement, perdre sa terre natale où on risque de mourir ou vivre dans la précarité d'un pays, même qui est en paix, mais qui n'est pas le sien, Ferhat Talani.
Mais c'est le rêve de tous les réfugiés politiques, c'est de pouvoir d'abord jouir d'une liberté, d'une terre d'accueil qui n'emprisonne pas les idées. Ça, c'était la démarche de mon père et de ce père dans le roman. Et puis très vite, la réalité de la vie le rattrape. Lorsque je nais, lorsque ma sœur naît après, il faut se sacrifier. Mon père et le personnage du père dans le roman, Rami, qui était un intellectuel irakien, ne peut pas exercer à son niveau en France. Mmh. Et donc, il est obligé de sacrifier sa carrière en faisant des boulots de rue. Effectivement, il vend des cartes postales sur le parvis Notre-Dame. Finalement, le personnage de Rami, toute sa vie, n'a été qu'une histoire de cartes. Une carte d'abord que le personnage trouve dans la valise qui a réellement existé. Une carte avec un faux nom. Il vend des cartes postales sur le parvis Notre-Dame. Il demande à un moment donné la nationalité française. Donc, il se retrouve avec une carte d'identité française. Et tout ça, je trouve, donne une symbolique à un parcours. C'est que parfois, la vie tient à un détail. Et pour lui, tout a basculé lorsqu'un jour, encore une histoire de cartes, un membre d'une délégation française en Irak lui a donné une carte avec une adresse en lui disant... Une carte de visite. En lui disant, si un jour tu as un problème, tu pourras venir chez nous. Et tout est parti d'une carte.
Alors cette carte, vous en faites un manuscrit, vous écrivez sur cette carte, parce que c'est vrai que vous avez la chance de pouvoir prendre la parole. Peut-être que lui n'a pas eu cette chance. D'ailleurs, dans quelle mesure est-ce que vous n'êtes pas devenu journaliste justement pour raconter, pour écrire cette histoire, d'abord du pays et puis ensuite cette histoire intime?
Ah, j'en suis persuadé que tout est lié, mon écriture, que ce soit dans le journalisme ou avec l'écriture de ce roman, vient de ce premier voyage en Irak qui était prémédité pour mon père. Je suis persuadé qu'il m'a ouvert les portes de ce pays avec un objectif précis, de prendre le relais, effectivement, comme vous le mentionnez à juste titre tout à l'heure au début de l'émission. C'est un relais, c'est une transmission, c'est aussi quelque part essayer de réussir là où lui a pensé échouer. Parce que pour moi, il a réussi sa vie. Mais lui pensait l'avoir échoué. Et quand on est un enfant d'exilé, je pense que c'est quelque chose d'universel. On se pose tous la question de comment perpétuer l'héritage de ce sacrifice. Et pour ma part, ça a été par l'écriture, ça a été par être le porte-voix d'un pays déchu, d'une histoire, et en l'occurrence, celle de mon père. Et j'espère avoir répondu à la demande silencieuse de mon père de poursuivre en fait sa destinée, parce que mon père était aussi quelqu'un qui aimait écrire, c'était quelqu'un qui aurait pu être journaliste, il était militant politique, moi je ne le suis pas, mais j'ai repris le flambeau pour poursuivre cette histoire quelque part. Et donc oui, pour répondre à votre question directement, je suis devenu journaliste sans savoir à l'époque, mais avec le recul je le sais, parce que mon père m'a envoyé en Irak.
Rami meurt d'un cancer ou de chagrin, peut-être, on ne saura jamais, sans vraiment être réconcilié avec son pays natal. En tout cas, c'est comme ça que je le lis. Et vous, quel est votre lien avec l'Irak aujourd'hui?
C'est un lien complexe, c'est un lien d'amour et de haine. C'est un lien de quête perpétuelle vers un Irak idéalisé, certainement. Un Irak merveilleux que j'ai vu, encore une fois lucide sur la nature du régime. Mon père en a été la victime, et puis j'ai eu, en tant que correspondant sur place, beaucoup d'histoires autour de moi qui m'ont concerné directement, ma famille, des tragédies durant l'embargo, durant le régime de Saddam Hussein et après l'invasion américaine. Donc c'est une relation complexe, difficile, une fierté, un amour pour ce pays. C'est quelque chose que j'assume et j'ai l'impression que c'est pas politiquement correct de dire qu'on aime son pays d'origine aujourd'hui. Je sais pas, j'ai le sentiment que il faut être critique à la fois de son pays d'origine et du père. Et moi, j'assume tout à fait dans ce roman l'hommage rendu à un pays et à un père, une lettre d'amour même, et quelque chose, une affection forte, tout en essayant d'aller vers cette complexité. Et quand je vous dis amour et haine, c'est quand même beaucoup plus amour, sincèrement.
Mais en même temps, vous n'y vivez pas aujourd'hui, Ferhat Halani, comme vous avez vécu à une époque à Bagdad.
Oui, mais moi, je suis né en France et j'ai aucun problème avec...
Oui, mais vous ne vivez pas en France non plus.
Non, j'ai quitté la France pour des raisons autres, mais je veux dire, j'ai passé 25 ans de ma vie depuis ma naissance en France. J'ai un amour pour mon pays, c'est mon pays, et je n'ai aucun problème à parler mes origines tout en assumant le fait d'être français. Souvent, on me pose la question, mais tu te sens français ou irakien? Et c'est tout simple, ma réponse est français et irakien. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème à assumer les deux. Ma langue natale est le français, j'écris en français, je ne pense pas en irakien. Mais c'est un pays, effectivement, que je connais très bien et dont j'ai eu le privilège de connaître à différents moments. Et en même temps, la culpabilité de ne pas avoir vécu comme les vrais Irakiens, si je puis dire, ceux qui sont nés sur place. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposture, dont on parle, dont beaucoup d'enfants d'exilés parlent aujourd'hui. Le fait d'être privilégié alors qu'on aurait dû naître là-bas.
Mais cette anormalité, cette solitude, cette différence que vous ressentiez enfant, c'est derrière vous maintenant ?
Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je vis très bien mes deux cultures. Mais j'ai toujours affaire aux questions, et c'est pas grave, c'est pas du tout... l'intention est bonne, je pense, mais j'ai toujours affaire aux questions sur cette étrangeté, quelque part, d'être irakien et français. L'Irak, ou la France plutôt, n'a pas de passé colonial avec l'Irak. J'ai grandi avec des Français de souche et des Français d'origine maghrébine ou africaine, peu importe, qui ont un passé colonial, qui ont une histoire à raconter, qui a une forme de cohérence politique. C'est pas du tout mon cas. En tout cas, s'il y en a une de cohérence... Elle est dans l'histoire de ce roman, sur cette fuite d'un père vers un pays. Donc il y a une histoire qui se crée, mais je suis toujours dans cette obsession qui est aussi la mienne, qui est l'anormalité. Je suis toujours dedans. Le fait de m'appeler Ferhat et non pas Karim ou François, c'est déjà anormal. Donc je le vis très bien, mais c'est une question, à mon avis, qui va me poursuivre, toujours.
Mais c'est si beau d'être nommé d'après un fleuve.
Mais j'en suis très fier de mon prénom.
Oui.
J'en suis très fier. Et... Le fait de découvrir aussi qu'il y a une histoire derrière ce prénom, qui elle aussi est réelle, le fait que mon père ait failli se noyer dans l'Euphrate, je porte le prénom de ce qui aurait pu tuer mon père. Donc c'est quelque chose aussi de... Si on rentre dans la psychologie, dans la psychanalyse même, c'est quelque chose qui n'est pas évident à assumer. Mais la beauté de ce prénom et le fait que mon père m'ait donné ce prénom parce qu'il aimait ce fleuve, c'est quelque chose de très beau, effectivement.
Ouais. Moi, je vous propose une autre lecture. Il a failli se noyer, en effet, dans l'Euphrate quand il était enfant, mais il en est sorti vivant, comme si le fleuve l'avait porté. Il a ressuscité grâce à l'Euphrate. Donc, vous aussi, d'une certaine façon, Ferhat Halani, vous le ressuscitez par l'écriture.
C'est vrai. Mais merci de me dire ça. J'ai pas eu cette grille de lecture-là, mais c'est vrai. Quelque part, j'essaie de lui restituer une histoire, une mémoire, encore une fois, pour ne pas qu'on l'oublie, et pour qu'il reste vivant, effectivement.
Et vous avez parfaitement réussi dans ce très beau roman, dont je rappelle le titre « Je me souviens de Fallujah », signé de Ferhat Halani, qui est apparu aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci encore.
Merci à vous, merci beaucoup.
Et merci beaucoup à Lorraine Nemoza et Olivier Roux, qui aujourd'hui ont enregistré cette émission.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.
Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.